France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Prora, un symptôme allemand. En 2018, la station balnéaire de Prora, située sur l'île de Rügen, au bord de la Baltique, obtient officiellement le statut de Hotzetsebad, station thermale en français, qui offre à ses visiteurs et pensionnaires une résidence hôtelière dernier cri, avec spa, vue plongeante sur la mer et plage privée, le tout ceinturé par une réserve ornithologique et par la baie de Prorvik, que tous qualifient de magique. Sauf que ce complexe n'a pas été construit, il a été réaménagé, ou devrait-on dire réinventé, par un promoteur intrépide dans les années 2000. Oui, intrépide, car il en fallait de l'audace pour miser sur ce site et tenter de faire oublier son terrible passé, qui prend forme en 1936 sous l'ère nazie, lorsqu'Hitler confie à l'architecte Clement Klotz la mission suivante, créer une station balnéaire pour les travailleurs allemands, comprendre pour rien seulement. Puis à l'issue de la guerre, Prora passe aux mains des communistes, qui abritent une antenne de la Stasi, sa police politique. Nazi, Stasi, les pierres de cet édifice racontent les dictatures qui ont traversé l'Allemagne au XXe siècle. Notre invité aujourd'hui est Christian Ingrau, historien, spécialiste de la période nazie, co-auteur avec Johann Chapoutot et Nicolas Patin du livre « Le monde nazi » paru l'an dernier chez Talendier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Des mouettes, des vagues, des plages bordées de falaises de craie, nous ne sommes pas à Étretat, mais sur l'île de Rügen, aux confins de l'Allemagne, à quelques encablures de la Pologne et du Danemark. Un écrin de nature sauvage et attractif, notamment pour les amateurs d'ornithologie. Chaque année, plus d'un million de touristes s'y rendent grâce au pont construit en 1936 qui relie le continent à l'île. C'est pratique. Les vacanciers découvrent alors les falaises qui ont inspiré le peintre Caspar David Friedrich, admirent les façades des villas à belle époque, organisent des randonnées, se baignent dans la Baltique. Un décor de rêve qui inspira l'ancienne chancelière Angela Merkel. Elle s'y présenta aux législatives de 1990 et y fut réélue jusqu'en 2017. Elle y convia même François Hollande le 9 mai 2014. Une visite menée sous la pluie, évidemment. Comme disait le président français, gouverner c'est pleuvoir. Reste que Madame Merkel est ravie de recevoir Monsieur Hollande ici.
C'est avec une grande joie que nous allons maintenant visiter les falaises de Craie sur l'île de Rügen. Puis nous serons à Binz aujourd'hui et à Stralsund ce soir. En marge d'importants dossiers politiques, nous aurons l'occasion de mieux découvrir ces terroirs qui sont les nôtres. Sois le bienvenu, cher François.
Cher Angela, je suis très sensible à ton invitation aujourd'hui, parce que c'est toi, parce que c'est ici, dans un lieu que tu connais bien, et enfin parce que c'est le 9 mai qui est le jour de l'Europe.
Alors, Rügen, destination consensuelle, oui et non. Car il suffit de s'éloigner du petit port de Sassnitz, de tourner le dos à la pimpante station de Binz et se rendre un peu plus au sud, à Prora, sur la plus belle plage de l'île où on entend des avis contrastés. Exemple, avec Hans, Peter et Margret, un couple de retraités un brin sur la défensive. Ils y ont acquis une résidence secondaire et assurent qu'ils ne le regrettent pas. À Helen Kohl, la journaliste du JDD venue les interviewer, Hans-Peter déclare « J'ai acheté à Prora car je venais m'y baigner quand j'étais petit. Et puis quoi? S'il fallait détruire tous les bâtiments construits à l'époque, Berlin perdrait la moitié de son intérêt historique. » Mais tous ne partagent pas cette désinvolture. Sur la plage, certaines familles se montrent bien plus gênées par le passé de l'île.
L'eau est super bonne, c'est génial.
C'est parfait pour les familles. Ici, on peut s'avancer loin dans la mer tout en ayant pied, c'est super.
C'est quand même surréel d'être ici quand on connaît l'histoire du lieu.
L'époque nazie et de la RDA ne vous pose pas de problème?
Non, pas de problème.
Pourquoi?
Pourquoi ça serait un problème? C'est le passé.
C'est parce que c'est si grand et limite aberrant que c'est bien. Faire des appartements et un hôtel, je trouve ça discutable. Ce lieu ressemble trop à l'idéologie qu'on ne veut plus montrer.
Ce qui gêne, c'est tout d'abord ce colosse qui saute aux yeux. Cette barre de béton qui s'étend sur plus de 4 km le long d'une mer couleur émeraude. Une violence pour le regard, une hérésie dans le paysage. Un cauchemar également. Pour les vacanciers d'aujourd'hui, sans doute. Mais pas pour les architectes allemands des années 30. Question d'époque. L'idée est alors pour les dignitaires nazis de voir grand pour impressionner les masses. Et pour prouver aux pays étrangers la puissance du Troisième Reich. Dès lors, ce sont des œuvres monumentales qui se déploient aux quatre coins du pays, après avoir été validées par Hitler en personne. Ici, point de poésie, seulement la puissance. Mais pourquoi construire ici, sur cette île perdue au bord de la Baltique? Pour le comprendre, il faut se référer à l'histoire sociale du pays, dans lequel les syndicats sont depuis longtemps implantés. En 1908, soit bien avant les Français, deux tiers des entreprises allemandes proposent déjà des congés payés dans le cadre de conventions collectives. Ainsi, le 1er mai 1933, alors qu'Hitler vient de s'emparer du pouvoir, le ministre du Travail, Robert Ley, déclare aux ouvriers « Je suis moi-même fils de paysan pauvre. Je sais comment le capitalisme vous exploite. Et je vous le jure, nous étendrons vos droits. » Bien. Sauf que les premières mesures, en vérité, sont destinées à éliminer les organisations autonomes. Le Parti communiste est dissous en mars, le Parti social-démocrate en juin. Et le lendemain de ce 1er mai 1933, ce sont les locaux de la puissante Confédération syndicale qui sont à leur tour investis par la police. Il s'agit de confisquer ces biens, empêcher toute dimension conflictuelle et surtout toute possibilité de grève. En échange, le parti crée le Front du Travail, Deutsche Arbeit Front, dit DAF, et inspiré du Dopolavoro, l'œuvre nationale du temps libre mise en place par Mussolini en Italie afin d'encadrer les ouvriers dans leurs loisirs. Encadrer pour mieux contrôler. Voilà qui pied bien le nazi. C'est pourquoi, au sein du DAF, on crée le KDF, Kraft durch Freude, qui signifie le travail par la joie. Effrayant, bien sûr. Mais en échange, des vacances organisées sont offertes à toute la communauté nationale, comprendre à rien seulement. Au programme, des croisières KDF, des voitures Volkswagen KDF et des séjours KDF sur l'île de Rügen. Et ce lieu n'est pas choisi au hasard. Il est le fief d'une bourgeoisie honnie par le régime. Ça tombe bien. Certaines plages y sont encore sauvages. Le projet est donc validé et l'œuvre confiée à l'architecte Clement Klotz, un proche d'Hitler. La première pierre est posée le 2 mai 1936 en compagnie des dignitaires du Reich, tandis qu'une escadrille de bombardiers de la Luftwaffe survole la plage. Un an plus tard, le projet est révélé lors de l'Exposition universelle de Paris, un événement mondial consacré aux arts et aux techniques.
L'Exposition de Paris 37 est inaugurée par le président de la République. Le chef de l'État, accompagné de messieurs Léon Blum, président du Conseil, Paul Bastide, ministre du Commerce, Edmond Labbé, commissaire général, arrive au musée d'art moderne où sont réunis les ministres, les membres du corps diplomatique, du Parlement et des assemblées municipales et départementales. L'exposition des arts et techniques de Paris 37 s'offre au monde comme le témoignage du goût, de la volonté et de l'enthousiasme du peuple de France.
Conçu en béton armé, haut de 54 mètres et couronné d'un aigle tenant une croix gammée dans ses serres, le pavillon d'Allemagne a été dessiné par Albert Speer, l'architecte en chef du Reich et futur ministre des Armements. Face à lui, à Zarupa, le pavillon de l'URSS, dominé lui par un gigantesque couple musclé brandissant une faucille et un marteau. C'est étrange comme ces deux pavillons semblent se défier, sous l'égide de la tour Eiffel située juste en face de l'autre côté de la Seine. Mais c'est bien le projet de Clement Klotz qui emporte le grand prix de l'expo à la barbe des soviétiques et devant 30 millions de visiteurs. Un prix qui, outre Rhin, fait rugir de plaisir. Les avancées du chantier sont donc suivies de près par Hitler lui-même qui aime se faire photographier devant les maquettes. Et tous se sentent pousser des ailes. C'est-à-dire que rien n'est trop beau pour ce colosse des classes populaires baptisé Prora. Alors sur le chantier, plus de 9000 ouvriers s'activent. Et Hitler le répète, l'une des raisons de la défaite de la guerre de 14-18 réside dans le manque d'énergie et d'obéissance des soldats. Il y a donc urgence à pousser le peuple au travail et à lui offrir des vacances siglées KDF afin de les préparer au combat. Côté usine, la propagande bat son plein, à grand renfort de discours et d'affiches, et même devant les caméras. Ici, le ministre du Travail, Robert Ley, exalte les vertus du KDF par un lexique bucolique.
Les fils de l'Allemagne voyagent. Ils connaissent la mer, la montagne, les bords du Rhin. Pour trouver le repos et garder la santé, vous aurez la force par la joie.
Nous sommes en 1938 et la folie nazie bat son plein. Profitant de la ferveur de l'Anschluss et des pogroms de la nuit de cristal, le KDF décide d'exproprier les maisons de 53 familles juives de la commune de Binz, située sur l'île de Rügen, au sud du chantier. Objectif, arianiser l'île tout entière. Car enfin, comment expliquer que les juifs occupent ces villas sublimes alors qu'à quelques kilomètres de là, les ariens se préparent à débarquer à Prora ? Parce que les travaux avancent vite et laissent entrevoir un complexe monumental. Un hall d'entrée pharaonique, apte à recevoir 20 000 vacanciers en même temps. Un immense amphithéâtre, une somptueuse salle des fêtes, deux piscines équipées de vagues artificielles et un accès direct à la mer. Là, juste en face. Côté port, deux débarcadères de 200 et 800 mètres permettront aux bateaux d'amarrer pour déverser les touristes de masse. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur du colosse également, la philosophie nazie se déploie. Sur 7 blocs et plus de 4 km de long, d'interminables couloirs desservent des milliers de petites chambres de 2,50 m sur 4,50 m, avec sanitaire au bout du couloir. Une allure de caserne, certes. D'autant que les chambres sont dotées de haut-parleurs, par lesquels les dirigeants peuvent asséner leurs ordres aux travailleurs. Oppressant, bien sûr. Sauf que ces chambres jouissent de la vue sur la mer et que le prix du séjour est imbattable. 20 Reichsmark pour une semaine, soit un quart du salaire mensuel moyen de l'époque. Le parti est généreux. À l'arrivée, un sac de pommes de terre est même remis à chaque famille qui aura tout loisir de se ressourcer et d'oublier ses soucis. Avant l'arrivée des pires qui soient, la guerre.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know where. But I know we'll meet again some sunny day.
Keep smiling through,
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Prora, un symptôme allemand.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Septembre 1939, la guerre signe l'arrêt des travaux à Prora, qui n'a pas eu le temps de recevoir un seul touriste. Mais les autorités du Reich ne perdent pas espoir. Dès 1940, des travailleurs forcés polonais sont envoyés sur le chantier pour continuer à ériger le colosse. Mais qui sait qu'il s'agit là de travail forcé? La propagande bat son plein. Elle traverse même le Rhin. Et dès 1940, l'idéal de Prora, oui, l'idéal, est mis en scène dans les actualités vichysoises.
Sur la côte allemande, dans l'île de Rügen, on achève une gigantesque construction qui s'étendra sur 6 km de longueur. Cet établissement sera réservé aux ouvriers du Reich pour des séjours de repos ou de vacances au bord de la mer.
Quel courage, ces travailleurs du Reich, quelle réactivité! À partir de 1943, Prora est même utilisé pour former les agents du renseignement naval, tandis que les prisonniers soviétiques y construisent un hôpital militaire dans des conditions terriblement précaires. Sauf que, en 1945, les nazis perdent la guerre, et dès cette année-là, l'armée rouge de Staline prend le contrôle de la région et décide en 1952 d'y établir sa propre base militaire. Eh oui, à Moscou, on réalise que la guerre froide rend le site de Prora très intéressant. Pensez donc, un bâtiment si solide, si grand, situé à quelques encablures du port de Rostock, à 300 km de Berlin et au temps de la Pologne, une aubaine. D'autant qu'en 1949, avec la création des deux Allemagnes, la fédérale et la soi-disant démocratique, la situation se tend. 5 des 7 blocs du bâtiment sont alors investis par la police populaire casernée, la KVP. Le bloc le plus au sud devient une maison de vacances pour les familles des militaires, tandis que les blocs restants sont destinés aux forces terrestres de l'armée populaire nationale, la NVA. C'est ainsi qu'à la place des touristes de la force par la joie, ce sont 10 000 soldats soviétiques qui se retrouvent confinés là, sur cette île jadis sublime, devenue inaccessible à la population civile. Parallèlement, ce sont aussi les membres de la Stasi qui s'y installent. Voilà pourquoi, en tant que police secrète, la Stasi a tout intérêt à rester discrète et à faire disparaître Prora des cartes IGN. Le problème, c'est que la réputation du site se moque bien des cartes, des secrets, des barbelés. Le savent-ils, ces objecteurs de conscience qui y sont envoyés? Ce sont de jeunes pacifistes qui acceptent d'effectuer leur service militaire mais qui refusent de prendre les armes. Perçus par le parti comme des ennemis de l'État, les voilà contraints de bâtir le port de Mukran, tout près de là. Stationnés dans une unité spéciale du bloc 5, ces jeunes hommes le ressentent. Quelque chose ne tourne pas rond à Prora. L'un d'eux, Christian Schmidt, se souvient pour l'émission L'invitation au voyage sur Arte.
À l'époque, il y avait déjà quelque chose de menaçant, quelque chose de lugubre, et ça n'a pas changé. Rien que sa taille est écrasante, cette uniformité, il n'y a aucune individualité dans ce bâtiment. La loi nous autorisait à ne pas porter d'armes pendant le service militaire, mais c'était un compromis fumeux. En fait, c'était une variante moderne des travaux forcés, quand on y pense.
À l'instar de Christian Schmidt, et jusqu'en 1989, pas moins de 20 000 jeunes découvrent ce que signifient les travaux forcés à Prora. Des années de cauchemars, qui prennent fin avec la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Empire soviétique. Une chance? Pas exactement. Enfin, pas tout de suite. Car après la réunification des deux Allemagnes, le bâtiment devient pour tous très encombrant. Symptôme gênant de leur totalitarisme respectif, ils n'offrent rien de moins qu'une mauvaise conscience générale. Alors, en 1992, décision est prise de dissoudre la base militaire et d'ouvrir le bâtiment au public. Mais qui a envie de s'y rendre? L'endroit est tellement sinistre, livré à tous les vents. Traumatisé par des décennies de souffrance, les Allemands le trouvent au mieux inintéressant, au pire, maléfique. D'autant qu'il tombe en ruine. Que faire de cet ignoble bar? La raser coûterait une fortune. Alors quoi? Honorer le devoir de mémoire? En faire un musée? Bonne idée. Sauf qu'édifier un musée de 4 km de long serait une gabegie. Les autorités décident alors de le classer monument historique. Voilà qui devrait redorer son blason. Mais rien n'y fait. Le lieu devient tabou et les questions concernant son avenir restent sans réponse. En attendant, ce sont des squatteurs qui y élisent domicile, comme le raconte ce gardien en 1999 dans l'émission Thalassa.
Je vérifie si tout est en ordre, si les gens ont pénétré et passé la nuit ici, si des vitres sont cassées. Voilà l'essentiel de mon activité. Je fais ça tous les jours. Il y a toujours des curieux qui s'imaginent qu'il y a encore quelque chose à voler à l'intérieur.
En 2003, décision est prise par l'Office fédéral de la propriété de vendre les blocs individuellement à des investisseurs privés. Un vrai scandale aux yeux des Allemands de l'ex-RDA, peu coutumier de ces réflexes capitalistes. Alors que de leur côté, les Allemands de l'ex-RFA ne voient pas où est le problème. C'est ainsi que l'idée de faire tomber Proara dans le domaine privé réveille les blessures et cristallise les rancœurs entre Vessis, Allemands d'Ouest, et Ossis, Allemands de l'Est. Chacun le sait. Passé l'euphorie provoquée par la chute du mur, la réunification ne s'est pas faite sans un certain dépit. Au point que le tournant des années 90 a engendré une nouvelle expression dans la population. On l'appelle « Die Wende », le tournant amer. Explication dans ce reportage de Benoît Colomba pour le magazine Interception auprès d'un ancien attaché d'ambassade de la RDA, reconverti, tiens donc, dans la banque.
À l'époque, j'avais encore l'illusion qu'on pouvait changer quelque chose. Maintenant, je sais que je ne peux plus rien changer.
Vous ne pouvez rien changer?
Non. Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous pouvez voter n'importe quel parti, ça ne change pas le système. C'est l'économie de marché qui règne. Bon, il faut l'admettre, c'est ainsi. Et il faut nager comme le poisson dans l'économie, vous voyez, pour survivre.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, oh, mais celui-là, il a glissé entre toutes les eaux, il était dans l'ancien système, maintenant il est dans l'actuel système, il s'en est bien sorti celui-là, finalement ?»
Ouais, ben... vous savez, il faut faire sa vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que... vous savez, j'aurais pu... je pourrais me frapper un étoile rouge sur le front en disant « Voilà, je suis pour l'ancien système, mais je vis maintenant dans l'actuel. » Non, non, il faut s'adapter.
Aujourd'hui, comment vous vous considérez? Vous vous considérez comme un Allemand? Comme un Allemand de l'Est? Comme quoi?
Je me considère comme un Allemand de l'Est, c'est ça. Vous savez, c'est probablement comme la France pour un Alsacien après la Première Guerre mondiale. Et nous aussi, on est Allemands, mais finalement, je suis né dans un autre pays. Et je suis maintenant venu dans un pays qui nous a colonisés d'un certain sens. D'une certaine manière, oui. Vous savez, ça fait aussi un peu peur de faire partir d'un si grand pays. Ouais, ça ne me rend pas extrêmement heureux d'être allemand, surtout avec le passé qu'on a.
Que d'incompréhension entre les deux populations. En cette fin des années 90, et quelles que soient les classes sociales, ce sont l'amertume et le dépit qui priment dans le pays. Les Ossis reprochent aux Vessis leur arrogance, leur snobisme et la facilité avec laquelle ils acquièrent à l'Est des biens inaccessibles aux locaux. En retour, les Vessis les qualifient d'assistés, d'Allemands inadaptés au monde moderne, de ploucs pour faire vite. Et voilà que peu à peu, sur l'île de Rügen, des graffitis apparaissent qui intiment « Vessis go home »,« Vessis, rentre chez vous ». Pourtant, il faut bien construire un avenir commun, s'entendre sur les questions de l'État-providence, de l'éducation, la culture, les finances. Et sur l'avenir de Proara. Un site qui oblige les Allemands, tous les Allemands, à regarder leur passé nazi et communiste en face. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Côté ex-RDA, on se méfie toujours de la geste capitaliste. Et on craint que cette nouvelle idéologie, venue de l'Ouest, ne réalise le projet initial du national-socialisme dans sa version moderne. Mais au-delà de leurs divergences culturelles et de leurs fantasmes, tous s'interrogent. Qui aurait envie de spéculer sur un bâtiment aussi chargé que celui de Proara? Une question que se pose également Carsten Schneider, la maire de la commune, qui confesse. Proara a toujours fait peur. À l'époque nationale-socialiste, c'était un instrument de propagande. Du temps de la RDA, la caserne faisait peur aux conscrits. Après la réunification, cette ruine immense projetait une ombre inquiétante. Certains disent même qu'on y a retrouvé des cadavres de suicidés. Il n'empêche, pour les autorités, force est de constater qu'il est grand temps de tourner la page. En 2006, la mairie de Rügen décide de transformer le bloc 5 en une immense auberge de jeunesse reliée à un centre de documentation sur l'histoire du site. un projet consensuel, que tous valident. Mais que faire des autres blocs? Le premier à s'y intéresser est le promoteur Ulrich Busch, qui rêve de transformer le Colosse en un hôtel de luxe. Et il n'hésite pas à faire de son histoire un argument de marketing, comme ici, dans le JT de France 2.
On a conservé la structure des plafonds, nous avons juste rénové et peint en blanc pour couvrir le béton brut. À mes yeux, tout ce projet n'est rien d'autre que la plus grande entreprise de dénazification architecturale de l'histoire. Et nous avons tenu notre pari avec des vacanciers aux antipodes de ce que voulait le régime nazi. Un public international, multiculturel et familial.
Des vacances familiales pour vacanciers très fortunés. Car le bloc 2 propose des lofts lumineux aux notes scandinaves, des cuisines dotées de gadgets design, des salles de bain aussi spacieuses que des spas. Tout est fait pour faire oublier les chambres austères dessinées par Clement Klotz, l'architecte d'Hitler. D'autant que désormais, chaque chambre est prolongée par un balcon de verre qui surplombe la piscine de la résidence, d'où un chemin de sable mène à la mer. À Patrick Saint-Paul, venu l'interroger pour le Figaro, le promoteur Ulrich Busch explique « Les études ont duré 4 ans. Mais les travaux ont été rapides, car nous avons été aidés par la construction de base, qui était quasi industrielle. Clemens Klotz, l'architecte nazi, avait imaginé une structure en béton reposant sur des fondations qui ont très bien résisté au temps. Une technique directement inspirée du Bauhaus. Mais comme les chambres avaient déjà l'électricité, le chauffage et l'eau courante, nous avons même pu reprendre les conduites. L'homme raconte aussi qu'à l'origine, et tandis que la bataille contre le capitalisme battait son plein, il s'est retrouvé en une du magazine Bild-Zeitung. Il voulait me faire dire que c'était la revanche du fils sur les nazis qui avaient emprisonné le père. Mais c'était pas du tout ça. J'ai juste voulu profiter du plus grand projet immobilier d'Allemagne pour y créer un beau cadre de vie, tout simplement. Alors, spéculation ou pas, j'ai longtemps été le seul à croire en ce projet. Mais je suis heureux de voir son succès. En quelques années, le prix du mètre carré est passé de 3 000 à plus de 7 000 euros aujourd'hui. Paris gagné pour Ulrich Busch. L'idéologie capitaliste s'applique bien au site. Et de fait, les touristes en sont ravis, eux aussi. En témoigne ce reportage réalisé en 2020 pour le 20 ans de France 2.
Ce n'est absolument pas austère. Rien ne rappelle le passé du lieu.
Ils ont vraiment fait un travail fantastique. Ils en ont fait une véritable perle. C'est unique.
À l'époque, c'était presque effrayant. Il n'y avait rien de beau avant ici. Et puis, je trouvais la dimension du projet trop grande. Avec tous ces appartements, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve qu'il y a assez de place. C'est très agréable.
Il fallait faire preuve d'imagination pour se représenter le potentiel de cette ruine.
En effet, le complexe hôtelier de Ulrich Busch est un vrai succès. Duplex, studio, penthouse, les 400 appartements, tous étaient vendus. Parfois même à d'autres investisseurs, attirés par la niche fiscale que l'Allemagne applique aux monuments historiques. C'est ainsi que peu à peu, Prora sort de sa léthargie. Et c'est donc en 2018 qu'elle obtient le statut de Ostseebad, le label allemand qui la qualifie officiellement de station thermale. Un titre qui permet à la commune de réinvestir les taxes perçues dans la construction d'un grand centre commercial et de nouvelles jetées pour l'amarrage des ferries. La perspective de pouvoir enfin tourner la page, presque. Car 2 ans plus tôt, un dernier vent de contestation est né. Une pétition dénonçant la vente du dernier bloc, une nouvelle fois à des fonds privés. Parmi les 15 000 signataires, les élus écologistes du parti Die Grünen, alliés aux élus du parti radical de gauche, Die Linke. Car enfin, quid de la promesse non tenue par la commune d'agrandir le fameux musée et d'honorer le devoir de mémoire? Le guide du centre de la documentation, Christian Schmidt, est l'un des signataires. Au JDD, venu l'interroger, il déplore l'obsession des vacances et la réticence des jeunes à s'investir dans ce lourd passé. D'après lui, lorsqu'il leur propose de passer au musée, leur réponse est toujours la même. Si c'est pour nous rabâcher les horreurs commises par nos parents et nos grands-parents, non merci. Alors, au cœur du Colosse, les membres du centre de documentation se démènent pour séduire les jeunes générations. Ils proposent des partenariats, des sujets d'études, lancent des expositions et rappellent sur leur site que le centre est facile à trouver. Il se trouve juste à côté de l'ancien amphithéâtre. Celui qui avait été planifié sous l'ère nazie et qui est devenu aujourd'hui la discothèque Miami.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Prora, un symptôme allemand dont nous parlons avec notre invité Christian Graau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du Troisième Reich et de la violence culturelle nazie. Votre dernier livre, Le Monde Nazi 1919-1945, que vous avez coécrit avec Johann Chapoutot et Nicolas Patin, est sorti l'an dernier aux éditions Talendier. C'est une somme et nous allons y revenir. Alors, je me disais que faire du tourisme en Allemagne aujourd'hui est forcément mémoriel, en fonction du bâtiment devant lequel on se trouve. Et à Berlin, il en a beaucoup. Devant la porte de Brandebourg, par exemple, vous vous dites que là, le monde est tombé dans l'abîme sous la botte d'Hitler à la fin des années 30. C'est là aussi, à quelques encablures, que le mur de Berlin est construit en 61, validant l'ordre mondial Est-Ouest. Puis le mur tombe, générant là aussi un nouvel ordre mondial. Les soubresauts de l'histoire, l'Allemagne les connaît mieux que personne peut-être en Europe, s'expriment par les pierres. Est-ce que c'est le cas, votre avis, pour Prora?
Oui, c'est le cas pour Prora. C'est peut-être pas tout à fait la même histoire que celle de la porte de Brandebourg, parce que à Prora, l'histoire commence vers 1935-1936 et va jusqu'à nos jours. Alors que la porte de Brandebourg, on pourrait commencer à Napoléon, le Quadrige, etc., etc. Mais effectivement, ce que moi je trouve intéressant dans l'exemple de Prora, c'est que on peut faire des plongées dans l'histoire à la fois politique et sociale du pays, s'apercevoir que, quelque part, dans Prora, il y avait ce qu'on pourrait appeler, il y a le réel, et puis il y a le propagandistique et l'imaginaire d'un côté, et puis de l'autre, eh bien, il y a plein d'autres choses qui se jouent sur l'après-1945, la période soviétique d'abord, et est-allemande ensuite, et si on est un tout petit peu attentif, on peut aussi se dire que, en fait, c'est un peu comme pour la porte de Brandebourg, parce que la ville d'à côté s'appelle Stralsund, et Stralsund, c'est un des lieux de naissance de la Hanse, hein, de cette immense alliance commerciale qui fait venir les produits de la forêt orientale vers l'Europe des plaines.
Puis le troisième mouvement, finalement, de Prora, il y a l'époque nazie, il y a l'époque de la Stasi, la RDA, et puis il y a l'époque du capitalisme triomphant.
On est
complètement dedans avec Prora.
Oui,
hein.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est en fait ce mouvement qui est très intéressant, parce que dans le même temps, les deux premiers ne se dissolvent pas totalement. C'est-à-dire que même l'ère capitaliste est obligée, même cette Allemagne qui aimerait bien pouvoir faire business as usual, ou en tout cas avoir digéré un peu tout ça, eh bien, il y a des surrections mémorielles qui apparaissent tout le temps.
Bien sûr. Alors, du point de vue de l'histoire culturelle allemande, en quoi ce bâtiment témoigne-t-il d'une architecture nazie? Qu'est-ce que l'architecture nazie? Qu'est-ce que cet attachement de Hitler à Albert Speer, hein, son architecte préféré, et d'autres architectes d'ailleurs qui l'entourent, lui même, Hitler est passionné d'architecture. Bah, c'est quoi l'architecture nazie?
L'architecture nazie, c'est censé être une architecture revisitant Mycène. C'est la monumentalité, la grandeur et la force des structures et une statuaire qu'on retrouve un peu partout sur les bâtiments. On voit ça dans le Reichsparteigelände de Nuremberg, mais aussi quand on est à Berlin, il suffit de lever la tête. L'aéroport de Berlin, par exemple, Tempelhof, et fait partie de ces architectures absolument typiques. Dès que vous avez quand vous êtes dans n'importe quelle ville, dès que vous avez un bâtiment un peu impressionnant, très lourd et qui barre tout le paysage, la plupart du temps, c'est un architecte nazi.
Et ça correspond au rêve de Germania, hein, la capitale allemande d'Empire de Milan que voulait construire Hitler.
Exactement. Et Hitler a, dans les caves de la chancellerie, un immense plan qui est censé représenter, projeter ses fantasmes sur l'avenir, ses fantasmes architecturaux sur l'avenir. Et Prora est parfaitement l'un des paroxysmes, hein, de ce type de... d'architecture.
Alors, il y a eu un mouvement architectural en Allemagne intéressant, le Bauhaus, que les nazis qualifiaient d'art dégénéré, je crois.
Oui, en effet, et il y a les deux. C'est-à-dire que d'un côté, les nazis ont interdit le Bauhaus et ont contribué à la diffusion, en fait, du Bauhaus un peu partout dans le monde par l'émigration. Et d'un autre côté, quand vous regardez l'office de la construction du camp d'Auschwitz, vous apercevez qu'il y a deux architectes qui sont des diplômés du Bauhaus. Hein. Et on aura toujours cette ambiguïté. C'est-à-dire que oui, c'est un mouvement qui est moderniste, etc., etc. Et en même temps, vous avez toujours des vilains petits canards et des gens qui font partie des constructeurs des chambres à gaz.
C'est-à-dire qu'on veut la rupture, mais il y a toujours un continuum qui est incontournable, en fait. Alors, ça me fait penser à la visite d'Hitler à Paris, en juin 40. Il y reste 4 heures. C'est ce bandit devant l'architecture de Paris, disant que c'est une merveille, c'est la plus grande merveille du monde occidental. Et bien justement, Germania sera encore plus belle. C'était quoi ses goûts au-delà de cette architecture dont on vient de parler ?
Je suis assez mal placé pour parler des goûts d'Hitler, mais on peut dire que c'est quelqu'un qui est d'un extrême conformisme et qui, que ce soit en peinture, en musique, etc., il va toujours dans le sens du courant, en un peu plus lourd.
Ouais.
Et donc, c'est ce qui explique un peu tout ce qu'on peut voir, hein, Tannhauser, le Wagner le plus pompier possible, et bien sûr, l'architecture dont on est en train de parler, mais on pourrait faire la même chose avec la littérature, etc.
Enfin, Copain-Mussolini, il n'a pas été charmé par la beauté italienne, par exemple.
Hein. Non, c'est
on est dans,
ça,
on est dans l'efficace, quoi.
Ouais, okay. Oui, c'est ça.
Alors, comment comprendre que ce soit justement ce projet de l'architecte proche d'Hitler, Klotz, qui a remporté le Grand Prix de l'Exposition Universelle de 37 à Paris. Est-ce que ça a un lien avec ce que l'Allemagne ou l'Italie renvoyaient à l'époque, c'est-à-dire les idées fascistes qui étaient à la mode ?
Alors, il vaudrait mieux essayer de le voir pas tellement comme idée fasciste, nazi, stalinienne,
etc.,
etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la modernité qui est en train de se jouer à ce moment-là. Ces gens incarne des futurs possibles aux yeux de tout un nombre de publics et notamment des intellectuels et au fond le projet de Prora il incarne un petit peu cette chose là parce que bien sûr c'est la Volksgemeinschaft, vous l'avez dit, c'est-à-dire cette communauté du peuple très découpée où il n'y a plus de juifs, de réactionnaires, de cancéreux, de dépressifs, etc., donc une communauté complètement apurée. Mmh. Mais c'est aussi le début de la société des loisirs, du repos, du bien-être, quelle différence on fait exactement entre les prestations, je parle juste des prestations, entre les prestations du KDF et celles de ce que propose la Fédération des Œuvres Laïques et Léo Lagrange à la même époque? Je vois pas la différence, c'est pas la même.
Ouais.
On essaye d'apporter et du sport et du machin et du truc aux classes populaires. Pas toujours avec les mêmes, c'est pas les mêmes arrière-pensées chez Léo Lagrange, c'est l'émancipation.
Ouais.
Au KDF, c'est l'optimisation du travail.
France Inter. Affaires sensibles.
Christian Ingrao, à part Prora, y avait-il d'autres sites de vacances déjà efficients ou prévus par le KDF en Allemagne à l'époque ?
Prora est un site unique, hein, de par son gigantisme, de par son architecture. Il y a, par contre, une politique de dissémination de sites, de petits sites qui sont agréés et et dans lesquels on envoie en fait une grande partie de la population, notamment à la campagne. Hein, vous savez, la propagande nazie parle de ces grandes croisières dans lesquelles les ouvriers méritants auraient été dans les croisières, dans les fjords de Norvège, etc. Mais ce qui est vrai, par contre, ça c'est un peu faux, parce que de toute façon, ces croisières étaient réservées un peu au cadre du parti, et de toute façon, ils étaient surveillés par les membres du Sicherheitsdienst, du service de sécurité. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a un vrai mouvement de masse d'envoi de population ouvrière dans les montagnes, l'Algao, etc., pour les premières vacances, les premiers congés payés.
Ouais. Et pour les jeunes, dans les jeunesses hitlériennes, c'est un peu la même démarche, finalement. Par le collectif.
Il y a des principes qui sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on envoie les gens à la campagne? Pour qu'il y ait l'air frais, et puis pour qu'ils puissent se promener, et qu'il y ait ce qu'on appelle le Körperertüchtigung, c'est-à-dire de la culture physique, vous voyez, un corps sain. L'esprit sain, ils n'en ont pas tellement besoin. L'esprit, c'est annexe. Mais en tout cas, le corps doit être sain pour deux choses. Un, pour le travail, pour la guerre. Et donc, la Hitlerjugend, elle sert à ça, c'est-à-dire qu'elle prépare les corps à un habitus militaire d'un côté, martial, disons plutôt militaire, un habitus martial d'un côté, de l'exercice physique, et bien sûr, qu'est-ce qui vient juste après la Hitlerjugend, quand ils sont sortis, c'est l'Arbeitsdienst, c'est-à-dire le service du travail. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans cette suite-là. Mais quand les gens travaillent, il faut aussi qu'ils se reposent. Et donc, on a ici la raison d'être de ce service qui s'appelle Promenade des Voyages du KDF, toujours du KDF, hein, et de quelque chose comme Prora.
En 1937, au port de Hambourg, Hitler inaugure le Wilhelm Gustloff, Là, c'est les croisières dont vous parliez.
Oui, c'est les croisières dont je parlais. Et on a affaire ici à un de ces bateaux. C'est, alors, il y a un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Et ces croisières, elles sont célébrées, etc., etc. Mais bien sûr, elles ne touchent qu'une minorité de gens, et plutôt des gens de classe moyenne. Hein. Dans le national-socialisme, il y a peut-être socialisme, mais c'est un vrai trompe-l'œil.
Alors, en juin 1953, Herbert Ranke, le responsable du FDGB, l'organisation syndicale étatique, alors on est en RDA, hein, propose à Walter Ulbricht, qui dirige le pays à l'époque, il était avant Honecker, hein, la mise en chantier, écoutez bien, d'un navire de croisière comme sous l'ère nazie, où des représentants du parti unique, le SED, sont présents à bord, de même qu'un commissaire politique. L'histoire repasse les plats, hein.
Alors on peut dire que l'histoire repasse les plats, et d'un autre côté, si vous voulez, on ne retrouve pas du côté RDA cette espèce de double jeu et de cynisme que il me semble en tout cas qu'on ne le retrouve pas dans RDA. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que le service principal du Deutsche Arbeitsfront, c'est un truc qui s'appelle le Deutsche Arbeitswissenschaftliche Institut, c'est-à-dire l'Institut des sciences du travail, dans lequel on fait quoi? Après avoir proposé aux gens de les envoyer une semaine à Prora, et ben on est tout simplement en train de monter une équation scientifique pour essayer de leur rendre leurs gestes tellement efficients au travail qu'on les épuise.
Et puis ça montre aussi la difficulté de cohabitation après la réunification entre les V6 et les O6. C'est intéressant ça aussi. Hein.
Oui, ça c'est très intéressant, ouais, de voir comment ça se passe. Et ils sont assez rares quand même les espaces d'énonciation du fait que les V6 disaient ben, ce qui est bon s'impose de soi-même. C'était une pub pour une bière, mais ça parlait des usines. Hein. Si vos usines ne sont pas bonnes, c'est parce que vous n'étiez pas bon. On a gagné, vous avez perdu, etc. Il y a quelque chose qui est effectivement vécu comme une sorte de conquête par les gens les champs de l'Est, et ça explique pas mal de choses, et notamment ces heurts qu'on peut observer à Rügen, mais qu'on observe aussi désormais dans le Brandebourg, etc.
Et la Stasi, il y avait une antenne ou pas ? À Prora.
Écoutez,
ça n'a pas l'air très clair, ça.
J'ai pas suffisamment travaillé le truc, mais moi je l'ai pas trouvé, l'antenne de la Stasi. J'ai trouvé l'armée, j'ai trouvé les pionniers, etc., etc., mais pas l'antenne de la Stasi. Et les antennes de la Stasi sur lesquelles moi j'ai travaillé, parce que ces gens travaillaient sur le nazisme, elles n'étaient pas là. Ça c'est clair.
D'accord. Alors, vous avez donc publié avec Johan Chapoutot, Nicolas Patin, en 2024, donc l'an dernier, ce livre intitulé Le monde nazi de 1919. À 1945. Alors c'est vraiment une somme, et il y a des choses qui nous interpellent. Effectivement, vous dites, la fabrique d'un système qu'on décortique, où l'on voit que le pouvoir fut donné aux nazis avec une inconséquence sidérante. Développons cette idée.
Alors, cette idée, c'est une idée qui fait l'objet du livre d'un de mes co-auteurs, qui s'appelle Johan Chapoutot, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Irresponsables, un livre un petit peu, à la fois un petit peu provoque et en même temps très implacable. C'est-à-dire que, effectivement, quand on fait une lecture fine, de pure histoire politique des deux dernières années du régime, et ben on s'aperçoit que ces gens ont à gérer un énorme éléphant dans le corridor. Vous avez des gens qui sont de plus en plus conservateurs, de plus en plus autoritaires, mais qui ne veulent pas travailler avec les nazis. Or, les nazis, c'est le premier groupe parlementaire au Reichstag. Et donc, ils vont commencer par avoir le réflexe d'essayer de les contourner. Pour les contourner, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on suspend la démocratie, on passe par les décrets. Hein. Chez nous, c'est le 49-3. À cette époque, ce sont des décrets présidentiels. Et puis, au bout d'un moment, ben, tout ça se grippe, parce que ça commence à se concentrer sur la volonté du chef de l'État et de son entourage. Et donc, à partir du moment, le chef de l'État dit, ben, écoutez, non, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, ces conservateurs autoritaires décident, en sous-estimant totalement ce qu'est le national-socialisme, décident qu'ils vont intégrer les nazis, mais ils vont les contrôler. Et ils disent, ils pensent que c'est, comment c'est la phrase d'Adolf Thiers, c'est un imbécile qu'on va mener, disait-on de Napoléon III, et c'est exactement le même genre de choses qui va se passer. C'est-à-dire que le cabinet qui est développé le 30 janvier 1933 est un cabinet dans lequel les nazis sont minoritaires, Hitler est chancelier, mais il a un vice-chancelier, etc., etc. Et puis en fait, le château de cartes s'écroule en quelques mois.
Que veut dire l'expression que vous employez, dictature de la participation?
Alors ça, c'est un historien allemand qui s'appelle Sven Reichardt qui a employé ça, et qui essaie, cette expression essaye de montrer que il n'y a pas besoin de chanter Votan, ou de dire des odes à Hitler, ou de dénoncer telle chose pour s'intégrer, pour participer au national-socialisme. D'abord, participer au national-socialisme, c'est d'abord quêter, participer, être être dans, dans cette espèce d'atmosphère de fête et de célébration et de mobilisation.
Et de projet collectif surtout.
Est,
hein.
Et puis un projet collectif qui est un projet collectif dont les nazis font mine d'être en train de le réaliser. C'est-à-dire qu'à la fois ce Mannschaft, cette communauté du peuple, n'est pas un mythe, etc. C'est un horizon. Et les nazis disent, bah, on est en train de commencer le chemin. Bien. Et c'est ça qui le rend attractif.
Bien. C'est aussi la question de la responsabilité des peuples. Je rappelle quand même que Hitler est arrivé au pouvoir par les voies démocratiques. Mais
Par les voies démocratiques, mais
je ne fais que poser la question. Hein.
Oui, mais par les voies démocratiques, mais sans que jamais... Avant que Hitler ait tous les pouvoirs, il n'y ait de majorité pour Hitler. C'est-à-dire que même le dernier scrutin qui doit avoir lieu en mai-juin 1933, je ne me rappelle plus la date exactement, je suis désolé, mais même ce scrutin-là ne donne la majorité aux nationaux-socialistes qu'avec l'éviction des communistes et des socialistes. Parce que quand vous enlevez quand vous éliminez vos opposants, c'est évident que vous devenez opposés. Et effectivement, vous avez raison, il faut réfléchir à nouveau frais à la responsabilité des peuples. Mais la responsabilité qui me semble la plus importante, c'est celle des politiciens. Si vous ne parlez pas aux gens, et si vous ne leur parlez pas d'avenir, eh bien, c'est normal qu'ils choisissent ceux qui leur parlent d'avenir. Les nazis parlent d'avenir.
Alors, c'est un oxymore, hein, donc un peu bizarre, mais la prise de pouvoir d'Hitler, ce serait une sorte de putsch démocratique ?
Oui.
C'est-à-dire, dans le cadre démocratique.
Il y a quelque chose. C'est un putsch, on va dire, exécutif aux parlementaires. C'est-à-dire que c'est l'exécutif qui leur donne le pouvoir et à partir de ce moment-là, eh bien, ils font ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, ils tiennent le ministère de l'Intérieur, ils vont contrôler les polices, la justice, etc. Et puis, c'est fait.
Justement, on parlait de la responsabilité des peuples. À partir de quel moment, pendant la guerre, j'imagine, le peuple allemand prend conscience à que le pays va dans l'abîme, dans le gouffre, ainsi que l'Europe et une partie du monde.
Je pense que c'est extrêmement tard. Je pense que c'est pas avant juillet 1944. Hein. Ah ouais. Jusqu'en juillet 1944, le pays a été relativement protégé. Enfin, au plan économique, évidemment, ils prennent des bombes sur la tronche, mais ce n'est qu'à partir de l'offensive de Bagration, du débarquement allié et de la guerre aérienne à outrance qu'à ce moment-là, les gens commencent à sentir que ça va très mal.
Et ça va du mauvais. Toute dernière question, rapidement. Les historiens ont écrit beaucoup de livres sur le national-socialisme. Quelle était votre intention éditoriale ?
Notre intention éditoriale était de montrer on avait dit beaucoup de choses sur le national-socialisme et d'abord que c'était la faute d'Hitler, ensuite que c'était une sorte d'emballement de l'État, etc., etc. Et nous, on a voulu montrer que tout ça était très compliqué, qu'il fallait repenser l'interaction entre les populations et les gouvernements.
Donc c'est un conseil de lecture, hein, vraiment, le monde nazi. Merci infiniment, Christian Grau. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Prora, symptomalement une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Selim Guerribi.